Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Christian Boltanski.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes peintre, sculpteur, cinéaste, ethnologue, archiviste de la petite mémoire. Vous êtes donc un artiste pluriel. Et 35 ans après votre première exposition au Centre Pompidou, le musée vous consacre une rétrospective jusqu'au 16 mars. Dans cette exposition conçue comme une œuvre dans l'œuvre, vous continuez de raconter des paraboles, pas par les mots, mais à travers des signes, des images, des sons. Et j'ai à côté de moi la une de l'équipe, puisque nous avons perdu Raymond Poulidor. Je me suis demandé si, finalement, cette une, si vous la signez, par exemple, elle ne pourrait pas être un Boltanski, puisqu'il y a notamment les deux dates, 1936-2019, et puis ce tiret. Et pour vous, le tiret, c'est la vie.
Oui, il y a une œuvre qui est installée dans l'exposition, comme ça, qui est la date de naissance et de mort de mes proches, enfin de gens que j'ai connus près de moi, des parents ou des amis. Et effectivement, qu'est-ce qu'une vie? C'est ces deux dates et ce petit tiret, c'est ce qu'on retrouve dans les dictionnaires, dans les cimetières. Et ça se résume à cette petite barre. Mais Poulidor, c'est vraiment, comme dirait Pérec, c'est vraiment « je me souviens ». Pour les gens de ma génération, c'est quelque chose toujours, effectivement, qu'il Poulidor, le combat. Donc c'est un « je me souviens ».
C'est en noir et blanc aussi, cette une de l'équipe. Vous utilisez souvent le noir et blanc.
Moi, j'utilise oui, très fréquemment le noir et blanc, et qui crée une sorte de distance. D'abord, la couleur est quelque chose qui, aujourd'hui, est la normalité pour une photo, disons, qu'on a dans le portefeuille. Et donc, quand on met du noir et blanc, ça veut dire quelque chose d'un tout petit peu différent. Ça le met dans l'histoire, dans le passé. Mais la différence de l'équipe, ceux qui m'intéressent sont toujours des inconnus et des anonymes. Je n'ai jamais travaillé avec ou sur des célébrités. Je pense que chacun de nous est totalement unique et pour ça extrêmement important. Et que tous les humains sont prodigieux, et donc tous les humains méritent mon attention.
Mais dans le travail que vous avez fait, que vous faites, Christian Boltanski, il s'agit toujours d'essayer de résumer une vie, de conserver les détails d'une existence. Finalement, c'est un peu comme si vous faisiez pour ces gens qui sont inconnus le même traitement que d'ordinaire on réserve à des célébrités.
La grande question que je me suis posée, c'est effectivement l'importance de chacun et sa fragilité. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on se souvient de son grand-père, mais jamais son arrière-grand-père. Et donc c'est ce contraste entre le merveilleux de chaque être humain et le fait que tout ça disparaît tellement rapidement. J'avais une grand-mère, comme la plupart des humains, et c'était, je crois, une femme remarquable, et je pense que je suis le dernier à en souvenir. Peut-être moi et mes frères, mais nous sommes les derniers à s'en souvenir. Et donc, comment on peut disparaître si vite en ayant été, comme chacun, tellement important? Et moi, je suis... Dès que vous commencez à parler à quelqu'un, vous découvrez comme cette personne est remarquable. Je suis ami avec Jacques Roubaud et...
Avec le poète Jacques Roubaud.
Et il y a longtemps de cela... on avait décidé de créer un musée pour chaque être humain. C'est qu'après 60 ans, chacun devait avoir son propre musée ou ses propres mémoires. Et puis pour les musées, d'avoir les plus jeunes seraient donc directeurs du musée de quelqu'un de plus vieux. Et comme ça, tout le monde serait employé. Et en tout cas, c'est vrai que chaque être humain mérite son musée après 60 ans.
Oui, parce que lorsqu'on va visiter, par exemple, le musée qui est dédié à la mémoire d'un écrivain, il en existe un certain nombre, on se retrouve face à une sorte d'œuvre de Boltanski, puisque l'un de vos premiers projets consistait à rassembler tous les objets d'un individu et à présenter ces objets derrière des vitrines.
Mon activité, depuis le début, est forcément un ratage. Parce que j'ai toujours essayé de lutter contre l'oubli, la disparition, et naturellement c'est tout à fait impossible. Donc c'est un ratage annoncé. Et effectivement, ce qui m'intéressait quand je mettais des objets de quelqu'un dans une vitrine, c'est que c'était une sorte de portrait. Et en même temps, si vous mettez une pipe dans une vitrine, comme dirait l'autre, ce n'est plus une pipe. c'est l'image d'une pipe. C'est-à-dire que dès que vous essayez de protéger quelque chose, vous le tuez. Si on met un verre dans une vitrine, ce verre ne sera jamais cassé, mais il n'est plus un verre, puisqu'on ne peut pas s'en servir. Donc la destruction et l'usure font partie même de la vie.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fasciné par la mort? Ça, c'est évident, par l'échec aussi?
Le fait qu'effectivement, j'ai mis sous la cathédrale de Salzbourg, et ça a été assez compliqué parce que l'évêque de Salzbourg était pas tout à fait d'accord, j'ai mis une horloge parlante. Donc quand on descend dans la crypte, on entend, il est 5h10min 3s, 5h10min 5s. Et pour le convaincre, je lui dis que Dieu était le maître du temps, et que la seule chose pour laquelle on ne peut pas lutter en tant qu'humain, c'est ce temps qui avance continuellement. Et donc il était normal que le temps soit dit sous la cathédrale.
Il y a beaucoup d'humour dans votre œuvre, cela se voit d'ailleurs dans la rétrospective qui vous est offerte au Centre Pompidou. C'est finalement quelque chose de très drôle, la mort chez vous.
J'ai fait beaucoup de monuments dans ma vie, mais c'est des monuments qui sont faits dans des éléments un peu dérisoires. C'est pas en bronze ou en marbre, c'est en papier noir photographié, c'est en boîte de biscuits. Et vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur les Suisses morts, parce que dans les Nouvelles du Valais, qui est un petit journal suisse, on met la photographie dans les nécrologies, donc j'ai des milliers de Suisses morts chez moi. Et naturellement, je n'aurais jamais pu travailler avec des Juifs morts, ou même avec des Allemands morts, mais les Suisses n'ont pas de raison historique de mourir. Ils sont propres, riches, neutres. Et donc, il me semblait qu'ils étaient beaucoup plus universels et que l'association Suisse-Mort était presque une chose comique, si je puisse dire.
Et les Suisses meurent tous, selon vous?
Les Suisses meurent tous, oui, ça. Ça, maintenant, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, relativement jeune, mais je crois qu'ils tombent des montagnes.
Vous l'avez vérifié, il y a, pour ces différentes expositions et ces différentes œuvres que vous donnez à voir, une manière de faire revivre les morts, et il y a en arrière-plan la Shoah qui est l'un des fils directeurs de votre œuvre, Christian Boltanski.
Je pense que chaque artiste a un trauma au début de sa vie, au début de son œuvre, et j'ai la plus grande admiration par exemple pour Louise Bourgeois, et chez elle, le trauma était sa relation avec son père. Et donc moi, c'est sans doute mon trauma et le fait que, extrêmement jeune, trois mois à quatre ans, j'ai entendu énormément de récits de la Shoah faits par des survivants qui étaient les amis de mes parents. Et je pense que ça a été quelque chose qui a été déterminant dans ma vie. Là-dessus, j'ai jamais employé une image de la Shoah dans mon travail, et je souhaite que mon travail soit totalement universel, et il l'est. Je suis très souvent au Japon, et la première fois où j'ai exposé au Japon, il y a longtemps de cela, les Japonais m'ont dit « Votre travail est totalement dans la tradition japonaise. Vous devez connaître le zen parfaitement, ce qui était faux à l'époque. Et d'ailleurs, vous faites un peu japonais. Vous devez avoir un grand-père japonais. » Et donc, effectivement, la grande chose de l'art, c'est que on ne peut parler que de soi, mais que chacun qui regarde ce que l'on fait pense que c'est fait pour lui.
On vous connaît par vos œuvres, Christian Boltanski, et puis on vous connaît aussi par le livre signé par votre neveu Christophe Boltanski, La Cache. Et alors dans ce livre, on peut notamment lire « Christian, dont vous-même, a patienté jusqu'à l'âge adulte avant de se hasarder hors de chez lui sans son enveloppe protectrice. La première fois, il avait 18 ans, il ne marcha pas très longtemps, à peine 500 mètres entre la rue de Grenelle et une toute petite galerie baptisée les Tournesols et spécialisée dans l'art yiddish. »
Là, c'est une histoire. D'abord, c'est vrai que j'ai marché seul dans la rue très, 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 très tard. Nous avions une famille assez étrange, et là encore, je pense, traumatisée par la guerre, et il y avait une peur générale chez nous tous qui nous empêchait de se séparer.
Ça veut dire quoi?
Par exemple, nous avions un grand appartement et chacun, on dormait tous dans la même chambre, de peur que la nuit quelque chose puisse arriver. Je n'ai jamais vu mon père marcher seul dans la rue. Donc il y avait cette sorte de vivre normalement, en même temps normalement, parce que mon père était médecin, et en même temps dans une sorte d'inquiétude constante. Et donc, et pour l'histoire de cette galerie, J'étais un peu abruti quand j'étais jeune, même un peu presque malade, si je puis dire, puisque j'avais quitté l'école à 13 ans et que je passais ma vie à regarder par la fenêtre. Et ma mère avait une vieille amie qui lui a dit « Ton fils est idiot, on va ouvrir une petite galerie, comme ça il apprendra peut-être quelque chose, il pourra peut-être faire un métier plus tard ». Et donc elles ont ouvert cette galerie, qui était une galerie d'art yiddish, et l'art yiddish est une chose extrêmement laide.
Et c'est quoi l'art yiddish
alors? Ouais, c'est mannequins, c'est des sortes de sous-chagall atroces, voilà. Et donc, au bout de très peu de temps, je me suis aperçu que c'était absolument horrible. Donc j'ai envié la vieille dame, et je me suis servi de la galerie pour peindre, ça me servait d'atelier, et de temps en temps j'accrochais un tableau de quelqu'un que je rencontrais.
L'art a été, en quelque sorte, votre thérapie. C'est ce que vous avez plusieurs fois dit, Christian Boltanski.
Je crois que l'art, c'est une chose merveilleuse. D'abord, on peut se servir de ce qui est négatif en soi pour faire de l'art. Et puis, c'est une manière de créer une distance avec son malheur. On n'est pas malheureux, on parle du malheur. Vous savez, c'est la grande chose de l'acteur qui boit son verre d'eau. L'acteur qui boit son verre d'eau n'a pas soif, il montre la soif. Et donc, quand on est artiste, on monte et on monte pour les autres. Et puis, je crois que l'art, c'est la chose la plus individuelle, mais aussi la plus collective. Et que, par exemple, si on peut lire Proust aujourd'hui, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de chacun de ses lecteurs. Parce qu'on a tous attendu notre mère une nuit, on a tous été jaloux, on a tous eu un oncle ou une tante ridicule. Donc, à chaque fois, c'est « mais comment c'est-il ça sur moi ?»
Mais finalement, quand je vous ai demandé si l'art était une thérapie pour vous, je trouve que la question est beaucoup trop plate s'agissant à la fois de votre œuvre et de la situation originelle de votre famille, votre père caché par votre mère, la situation qui était la vôtre pendant la guerre, le fait que finalement, je crois que jusqu'à l'âge de 12 ans, vous n'avez pas parlé.
J'étais un peu abruti. Depuis, je parle, malheureusement. Mais pendant longtemps, j'étais un peu abruti.
Si vous n'aviez pas rencontré l'art, qu'est-ce qui serait arrivé pour vous?
C'est plutôt que j'ai eu de très bons parents. Dès qu'on me mettait dans une école, on me retrouvait une demi-heure après hurlant dans la rue. Et des parents moins généreux m'auraient fait voir un psychiatre, peut-être pour essayer de me mettre en pension, ou peut-être en apprentissage. Et puis ça aurait continué, et on peut tomber très facilement dans le domaine psychiatrique. Et là, ils ont accepté tout ce que j'étais, et quand j'ai voulu être peintre, ils m'ont acheté des couleurs et du bois, parce que je voulais peindre sur bois. Et puis voilà, ils ont accepté. Et je pense que si on a des enfants, j'en ai pas, mais si on a des enfants, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la composition ratée, du redoublage d'une classe, on ne sait rien.
Et alors au début, donc, vous avez commencé par peindre, vous faisiez aussi de la pâte à modeler.
L'histoire dit, mais c'est une histoire vraie, que je faisais des petites choses en pâte à modeler comme tous les enfants un peu déficients. Et un jour, mon frère m'a dit que c'était bien, et donc je me suis dit ça va être mon métier. Et c'était la première fois qu'on me disait que je faisais une chose bien, donc j'étais très encouragé par cela. Et puis, après ça, j'ai fait un dessin, il m'a dit aussi que le dessin était bien, donc je me dis, bon, voilà, ça y est. Et donc, c'était vers 13-14 ans.
Et alors, comment passe-t-on de cette situation où on découvre l'art lorsqu'on est un enfant dans une situation compliquée à la situation d'artiste reconnu? Parce que finalement, les choses sont allées plutôt vite pour vous, Christian Boltanski.
Moi, j'ai été très chanceux dans ma vie. Tout a été très simple pour moi. Ce qu'on peut dire de moi, c'est que j'étais bizarre. Mais j'étais d'une activité débordante. Par exemple, j'ai dû faire quelque chose comme 200 tableaux de 2 mètres sur 5 ou 2 mètres sur 3, des trucs gigantesques. Je passais mon temps à faire des tableaux qui sont heureusement détruits.
Enfin, il y en a un. Ils ressemblaient à quoi, ces tableaux?
Ce qu'on appelle maintenant un outsider. Vous savez?
De l'art brut.
Voilà. Mais il y en a un au Centre Pompidou dans l'exposition, j'ai tenu à en mettre un. Et, j'avais cette activité débordante. Et aussi, j'ai eu la chance, parce que je n'ai pas été à l'école, mais d'être entouré de gens qui avaient de la culture et qui m'en ont donné.
Et oui, parce que vous avez deux frères, l'un est sociologue, l'autre est linguiste.
Ah, et j'ai une sœur qui est beaucoup plus jeune. Mais donc, mes deux frères m'ont apporté beaucoup simplement par la conversation. J'ai appris tout grâce à France Culture après et par et par ceux qui m'ont parlé, ceux qui m'ont rencontré. Donc c'est une culture que j'ai acquis purement par l'oreille et pas par les yeux.
Mais c'est très étrange parce qu'on n'imagine pas. Alors, donc, il y a cette portion d'art brut qu'on connaît de vous, mais pour le reste, vous utilisez beaucoup la photographie, vous utilisez beaucoup des installations, bref, un certain nombre d'objets, mais pas du tout justement de l'art brut, Christian Boltanski.
Vous savez, d'abord, malheureusement, heureusement, je ne suis plus fou. Et donc on évolue, enfin je suis guéri si je puis dire, ou plus ou moins guéri, on n'est jamais guéri tout à fait.
Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire.
Mais on est un peu plus guéri. Et puis je pense que, en fait, dans l'art, depuis le début, il y a extrêmement peu de sujets, et les sujets sont toujours à peu près les mêmes, c'est la recherche de Dieu, le sexe, la beauté de la nature, enfin on retrouve toujours à peu près les mêmes sujets, mais simplement on parle avec le langage de son temps. Et la jalousie chez Racine, où aujourd'hui il y a la même jalousie, mais on ne parle plus en alexandrin. Et donc, moi j'emploie les langages de mon temps, qui est la vidéo, la photo, l'installation, et en même temps, ce que j'ai à dire, ce que je veux dire, n'ont pas changé, rien n'a changé. Et je suis un artiste totalement classique, et mes préoccupations sont les mêmes que ceux d'un artiste au XVIe siècle.
Qu'est-ce que ça veut dire, un artiste classique pour vous, Christian Boltanski ?
C'est quelqu'un qui essaye de répondre à des questions, mais qui ne trouve jamais la réponse. C'est-à-dire faire de l'art, c'est poser des questions et donner des émotions. Et c'est ce que j'essaye de faire, mais surtout ne jamais donner de réponse. Ceux qui ont la pensent avoir la réponse sont des gens extrêmement dangereux.
Et la question que vous vous posez, notamment dans cette rétrospective, c'est quelle vie y a-t-il après la mort pour ceux qui sont morts et qui sont observés par les vivants ?
Je suis tout à fait incroyant. Et disons que je pense que si on est peut-être... Vous savez, le nom de Dieu chez les Juifs... Un des noms de Dieu chez les Juifs est peut-être. On ne peut dire que peut-être. Et peut-être que nous avons nos ancêtres en nous et que dans notre esprit, nous avons aussi nos ancêtres en nous.
Christian Boltanski, Faire son temps, c'est l'exposition qui vous est consacrée au Centre Pompidou jusqu'au 16 mars prochain. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous nous expliquerez pourquoi cette rétrospective est intitulée Faire son temps. 8h sur France Culture. Et nous retrouvons l'une des plus grandes figures de la création contemporaine, l'artiste plasticien Christian Boltanski, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Christian Boltanski, Faire son temps au Centre Pompidou à Paris, jusqu'au 16 mars prochain. Faire son temps, qu'est-ce que ça veut dire, Christian Boltanski ?
J'aime bien les titres qui ont des doubles sens. Quand j'avais fait le travail au Grand Palais, ça s'appelait Personne. Mais personne, c'est il y a personne et il y a des personnes. Et là, faire son temps, à la fois je suis âgé, donc j'ai effectivement fait mon temps, et puis je suis, mais tout le monde est semblable, j'ai fabriqué mon temps, et chacun de nous fabrique son temps. Donc c'est à la fois fabriquer son temps et avoir fait son temps. Et il y a aussi un côté un peu humoristique, parce que j'imagine qu'on me dit « Oh oui, oh, il a bien fait son temps celui-là ». Donc c'était une petite plaisanterie.
Vous trouvez que vous avez fait votre temps ?
C'est un fait que j'ai fait mon temps. J'ai fabriqué ce temps et j'ai beaucoup fait de choses, donc ce temps est fait.
Mais alors vous profitez des quelques années qui vous restent à vivre, puisque vous les avez vendues.
Là, c'est une autre chose. Ça fait à peu près 10 ans qu'il y a un homme de Tasmanie qui a acheté ma vie, et donc ma vie, est, là où je vis, et mon atelier, est filmé jour et nuit, que je sois là ou pas là, par des caméras de surveillance, et puis c'est envoyé dans une sorte de caverne-bunker en Tasmanie, et tout est conservé. Et donc, il a des milliers, des milliers, des milliers d'heures de ma vie. En fait, il n'a pas grand-chose, parce que de me voir me mettre les doigts dans le nez n'est pas passionnant. Mais tout ce que je fais sont des petites paraboles. Et donc là, c'est un peu faustien, puisque cet homme a désiré... c'était mon idée. Je lui ai proposé d'acquérir ma vie.
Vous lui avez vendu cher?
Oui, très cher.
Vous avez bien fait.
Et donc, ça pose la question, par exemple, on ne peut pas vivre et regarder quelqu'un vivre. Donc il peint un malheureux pour me regarder. Et puis, on voit la progression. Par exemple, dans mon atelier, j'ai un escalier, je le monte moins vite et moins facilement qu'il y a 10 ans. Et c'est mon œuvre forcément ultime, puisque ça me suit jusqu'à ma mort. Et donc, on peut voir que je me détériore petit à petit, comme ça. Et puis aussi, ça veut dire qu'il n'a rien de moi. Parce que plus on a d'informations, moins on a d'informations. C'est un tout petit peu comme dans les ordinateurs. Je pense que sur moi, il doit y avoir 3000 trucs. Mais en fait, la plupart sont faux. Et de toute façon, on comprend rien. Et puis, il y en a trop. Et donc, trop d'informations empêchent l'information. Donc, il y a des, quand on va là-bas, c'est une bibliothèque gigantesque de DVD. Mais on n'a rien. Et je lui ai demandé, et j'espère qu'il le fera après ma mort, qu'il augmente la vitesse de tous ces DVD de 5 ou 6 000 fois, et puis que les visiteurs puissent appuyer au hasard, arrêter l'image, et de temps en temps, ils peuvent me trouver, me voir.
C'est un viager artistique ?
Je l'ai vendu en viager. Parce que c'est un homme qui a fait une fortune très grande seulement par le jeu. D'abord au casino, et maintenant sur les courses de chevaux. Et donc cette idée, je me suis toujours beaucoup intéressé au hasard. Et donc cette idée de lui vendre ma vie en viager m'a semblé judicieuse et rentable. Et normalement pour lui, je devais mourir il y a quelques mois. Et depuis quelques mois, j'ai dépassé il m'a donné plus que la somme que je lui avais demandé au départ. Et comme il m'avait dit qu'il n'avait jamais perdu sa vie, pour lui c'est une sorte de défaite.
Voilà, vous qui dites que vous êtes habitué des ratages, là, vous avez réussi. On va écouter un homme qui vous a beaucoup inspiré, Joseph Beuys.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand malentendu. Les gens pensent que l'art doit être compris à travers des phrases logiques qui se trouvent dans la région frontale de la pensée, à travers une intellectualisation de la causalité. Aujourd'hui, le rôle de l'art n'est pas d'être compris par la pensée intellectuelle. L'art doit plutôt être compris dans son entièreté. Cela signifie que l'œuvre d'art entre dans la personne et que la personne intériorise également l'œuvre d'art. Il doit être possible que les deux fusionnent l'un dans l'autre.
Verstellt sich in das Werk hinein. Es muss so ein völliges Eingehen in diesem Wortsinne möglich sein.
La voix de l'artiste allemand Joseph Beuys. Présentez-nous son travail. Pourquoi est-il important pour vous, Christian Boltanski?
D'abord, quand on est artiste, on est à l'intérieur d'une famille. Donc j'ai des pères, des grands-pères, des enfants, des cousins, des neveux. Et il est sûr que Beuys, mais également Warhol, ont un lien familial avec moi. Beuys a été très important parce que il est un artiste d'après-guerre qui a évoqué d'une manière pas du tout précise, mais qui a un peu évoqué le temps du nazisme par certains côtés, qu'il était lui-même assez politisé, plutôt écologiste, et que ce sont aussi des paraboles. Tout ce qu'il a fait sont des paraboles. Peut-être plus des paraboles chrétiennes que moi, mais tout ce qu'il a fait était des paraboles. Et il y a un effet... Vous savez, moi j'ai toujours que l'art, c'est donc donner des émotions et poser des questions, et c'est ce qu'il a fait. Par des choses les plus étranges, par travailler avec la graisse, le feutre, le cuivre, mais tout avait une sorte de signification symbolique. Et il est dans la grande tradition romantique allemande.
Politique, vous avez été assez peu politisé. Je crois que vous avez soutenu un candidat à une élection présidentielle, mais on ne trouve pas véritablement de traces d'engagement politique chez vous, Christian Boltanski.
Non, disons, je suis antifasciste, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais disons, je ne me suis pas intéressé à la politique. Et je pense souvent que l'art politique est une chose extrêmement difficile à faire. Et mes questions sont plutôt existentielles que directement politiques. Naturellement, nous vivons dans un monde politique et je le subis. Mais disons, moi, je me sens... Vous savez, d'abord, il y a une chose que Pérec a dit, que je trouve très belle. Il dit, nous sommes tous nés à Ellis Island. Et moi, je me sens né à Ellis Island.
Ellis Island, il faut rappeler ce qu'est...
Ellis Island était cette île au large de New York où tous les immigrants attendaient d'être américains ou attendaient d'être quelque chose. Et donc, je me sens de plus en plus... Bon, quand on me demande mon pays, je dis l'art. Et j'ai des amis un peu partout. Je voyage partout. Et de plus en plus, je me sens... lié à aucun lieu tout à fait directement. Naturellement, je suis né en France et j'aime les croissants et lire les journaux en français. Mais je me sens vraiment de plus en plus lié au monde.
Mais moi, je pensais que vous étiez corse.
Je suis effectivement corse, mais j'ai jamais été en Corse. Et la seule Corse que j'ai connue, c'était ma mère. Et je pense que là, il y a un problème psychanalytique que je n'ai pas résolu. Et donc, je ne connais pas la Corse. Mais je dis toujours pour ma musique que je suis un des meilleurs artistes corse. Pas le meilleur, mais un des meilleurs. Parce qu'il y en a très très peu aussi.
Vous dites aussi, je crois que pour comprendre votre art, il faut comprendre ce qu'il a de Corse en lui.
Oui, ça c'est une vraie plaisanterie. Parce que souvent, les gens imaginent que mon art a été très influencé par la partie juive de ma famille. Et donc, pour embêter, je dis non, mon art est totalement corse. Mais je ne connais rien de la Corse. Vraiment rien.
Vous êtes en tout cas aujourd'hui l'un des artistes corse les plus connus.
Voilà,
et en tout cas le seul qui est actuellement exposé au Centre Pompidou, Christian Boltanski. Alors donc dans cette grande œuvre d'art corse que vous avez inaugurée mardi dernier, il y a quelque chose de significatif, c'est qu'en fait vous avez transformé la totalité de cette portion, donc c'est le dernier étage du Centre Pompidou, en œuvre de Boltanski.
Pour moi, ce qui est vraiment important d'abord, c'est que toute exposition soit une seule œuvre. Et vous savez, je dis toujours que faire une exposition spécialement rétrospective, c'est un peu comme quand on rentre chez soi le soir et il n'y a rien à manger, alors on ouvre le frigidaire puis on trouve une vieille carotte et deux œufs et un bout de fromage. Et puis on fait revenir. Et en faisant revenir, on refait une œuvre nouvelle qui est basée sur ces plat, sur ces plats anciens, mais le plat qu'on fait est nouveau. Et donc là, je fais revenir, et à la fin, c'est qu'une seule œuvre. Toute exposition n'est qu'une seule œuvre.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas devant une œuvre de Boltanski, on est dans du Boltanski.
Moi, c'est très important d'être à l'intérieur de l'œuvre et pas devant une œuvre. Et on ne peut pas dire, cette pièce j'aime bien, cette pièce j'aime pas. C'est l'ensemble de l'exposition qui est l'œuvre.
Donc en fait, pour y entrer, on franchit un rideau. Et alors, sur ce rideau, il y a des portraits de Boltanski, donc de vous, à différents âges.
Là encore, c'est le passage du temps. Vous savez, Cantor disait, on a tous un enfant mort en nous, et effectivement, là, il y a le petit Christian, et puis le petit Christian qui devient très vieux. Et donc, c'est ainsi. Et donc, on entre dans ma tête, en quelque sorte. Un psychanalyste pourrait dire qu'on entre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire de moi, c'est effectivement c'est mes craintes, mes désirs, mais moi, c'est moi et moi sont les autres.
On voit en tout cas l'évolution de votre tête, notamment de vos cheveux, parce qu'avant vous aviez des cheveux bouclés, vous aviez beaucoup de cheveux. Oui. Alors maintenant vous êtes un peu chaud, enfin, vous êtes voilà. Rasé là, d'après ce que
donc
je
c'est,
vois.
Oui, on passe d'un mouton d'un mouton noir à un crâne d'œuf.
Mais vous êtes beaucoup plus joyeux maintenant, parce que sur les photos, vous êtes un peu...
En fait, je suis un homme assez joyeux, ce qui paraît parfois étrange par rapport à l'activité que j'ai. Mais justement, je pense que plus on réfléchit sur notre destinée, plus finalement, on est de plus en plus joyeux, parce que chaque instant est important. Et puis, c'est mon tempérament. J'aime beaucoup manger, boire, m'amuser.
Mais vous êtes vraiment joyeux ou à l'intérieur de vous-même, je ne sais pas, une dépression, penser qu'à la Shoah ?
On peut être très angoissé et penser à des choses très sombres. Et vous savez, il y a cette chose de Proust que j'adore. Bon, c'est un homme qui vient de perdre sa femme et puis il est très très malheureux. Et il y a deux amis qui le prennent par le bras et qui l'amènent dans le jardin. Et puis ils marchent comme ça. Et à un moment, cet homme dit, mais regardez, il fait si beau aujourd'hui, il y a du soleil. Oh, et puis ces fleurs sont si belles. Il fait, ah, j'avais oublié. Et je pense qu'on ne peut vivre que parce qu'on oublie constamment.
Et vous ne pouvez pas trop oublier parce que dans cette exposition donc, qui a lieu au Centre Pompidou à Paris en ce moment, Christian Boltanski, il y a notamment une œuvre de 2001 qui s'appelle « La vie impossible » de Sébé. Je crois que c'est vous, Sébé, Christian Boltanski. C'est l'unique œuvre autobiographique que vous avez faite. Alors il faut imaginer des vitrines qui contiennent des pièces lisibles et lisibles. Alors il y a des tickets de train, des photographies de personnes que vous avez aimées, des lettres de gens que vous aimez beaucoup, de conservateurs de musées. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe d'ailleurs sur ces lettres.
Je fais beaucoup de fautes d'orthographe moi-même, donc je ne peux pas en juger. Non, si vous voulez, là encore, c'est... Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un meurt, on retrouve chez lui un tiroir ou une boîte de carton. Et là, il a mis tout ce qui était précieux pour lui. Mais naturellement, on n'a plus la clé pour comprendre. Donc on ne sait pas si le ticket de train était plus important ou moins important que la lettre d'amour ou la lettre du président directeur général de... Donc c'est plutôt qu'il y a une sorte de masse de documents que j'avais gardés, mais qui sont aujourd'hui incompréhensibles pour chacun. Et les photos, on ne sait pas qui ils sont.
Il y a des factures de déménagement. Pourtant, vous avez peu déménagé. Vous avez un grand entrepôt à Malakoff où vous travaillez.
Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Tout ce qu'on peut garder. Parfois, qu'on garde par hasard. Vous savez, regardez votre tiroir. Il y a des choses. Je me demande pourquoi j'ai gardé ça. Et en tout cas, quand nous, on sera plus là, personne ne saura à quoi ça correspond.
Mais ça veut dire que vous conservez tout.
D'abord, aujourd'hui, il y a moins de choses à conserver. Par exemple, il n'y a plus de lettres, il n'y a plus que des... Avant, quand je faisais une exposition, je recevais, je sais pas, 200 lettres avec des belles entêtes du musée. Aujourd'hui, c'est des mails.
Et puis, on trouve votre intérêt, peut-être certains diraient votre obsession pour les Suisses morts. Ça, c'est une autre œuvre. Ça, c'est une composition qui est constituée de photographies collées sur des boîtes de biscuits qui sont empilées sous forme de tours, et ces boîtes de biscuits, elles sont assez emblématiques de votre travail, Christian Boltanski.
J'ai beaucoup travaillé avec des boîtes de biscuits, c'est pour ça que je suis un peu gros aujourd'hui, parce que j'ai dû manger tous ces biscuits. Mais la boîte de biscuits, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un objet minimal, et je suis né au moment du minimalisme, et en même temps que c'est un objet sentimental. C'est-à-dire que nos grands-mères avaient des boîtes de biscuits où elles mettaient leurs petits papiers importants. Étant enfant, souvent, on met ces petits secrets, ces choses-là. C'est le coffre-fort du pot, la boîte de biscuits. Et c'est également l'urne funéraire. Et donc, ces tours, qui sont parfois très hautes, sont seulement des boîtes qui sont entassées. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça a l'air très très solide, mais il suffit qu'un camion passe dans la rue pour que tout s'écroule. Et c'est là encore une image de nous-mêmes. À chaque instant, tout peut s'effondrer.
Et puis, il y a une œuvre qui est une œuvre de 1990 où on retrouve les boîtes à biscuits, les reliquaires. Alors, ils ont pour origine, ces reliquaires, la photographie de fin d'études d'un lycée juif de Vienne en 1937. Et puis, il y a une autre œuvre qui reprend un peu le même principe avec un gymnasium. Et c'est là un lien direct avec la Shoah, Christian Boltanski.
Direct et pas direct, c'est avant la Shoah. Et c'est des images, les deux images sont très joyeuses quand on les voit. Et c'est l'image de Vienne, c'est une fin d'études, les jeunes doivent avoir 17, 18 ans, ils sourient tous, et les autres, c'est une fête du Purim dans une école où tout le monde est très joyeux. C'est toujours que des images joyeuses. Mais ce qui m'a intéressé, par exemple, dans le gymnasium à Vienne, c'est que c'est une image collective, et quand j'ai agrandi les visages qui étaient très petits, les yeux ont disparu et on aurait dit un tout petit peu des crânes. Et donc c'est comme si ce qui allait sans doute arriver était déjà là.
Et c'est pour ça que les images joyeuses chez Boltanski, elles sont terribles, parce qu'on sait ce que vous pensez, on sait ce qui va arriver.
Il y a aussi, puisqu'on parle de ces images d'avant-guerre, une image qui m'a beaucoup frappé et que j'ai utilisée très souvent, ce sont des petites filles au lycée juif à Berlin en 38 qui regardent un spectacle, et sans doute un spectacle de clown parce que tout le monde rigole. C'est une image où il y a, je sais pas, 50 personnes, et tout le monde rigole horriblement, terriblement, et on ne saura jamais qu'est-ce qu'elles regardaient et pourquoi elles riaient, puisqu'elles regardent une scène et on ne sait pas ce qu'il y avait sur cette scène.
Je voulais vous faire écouter un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi, lu par Gwenaëlle Aubry, parce que c'est le centenaire de la naissance de Primo Levi. Et il y aura d'ailleurs des émissions spéciales sur France Culture avec des rencontres au centre Primo Levi. Il y aura une vie, une œuvre, Primo Levi, samedi prochain à 15h, un documentaire de Lenora Krief. Et puis dans Être et Savoir de Louise Touret, on se demandera comment transmettre la mémoire de la Shoah aux enfants. On va écouter un extrait de Si c'est un homme.
Nous découvrons tous tôt ou tard dans la vie que le bonheur parfait n'existe pas. Mais bien peu sont ceux qui s'arrêtent à cette considération inverse, qu'il n'y a pas non plus de malheur absolu. Les raisons qui empêchent la réalisation de ces deux états limites sont du même ordre. Elles tiennent à la nature même de l'homme, qui répugne à tout infini. Ce qui s'y oppose, c'est d'abord notre connaissance toujours imparfaite de l'avenir. Et cela s'appelle, selon le cas, espoir ou incertitude du lendemain. C'est aussi l'assurance de la mort, qui fixe un terme à la joie comme à la souffrance. Ce sont enfin les inévitables soucis matériels, qui, s'ils viennent troubler tout bonheur durable, sont aussi de continuels dérivatifs au malheur qui nous accable, et parce qu'ils le rendent intermittent, le rendent du même coup supportable. Ce sont justement les privations, les coups, le froid, la soif, qui nous ont empêchés de sombrer dans un désespoir sans fond, pendant et après le voyage. Il n'y avait là de notre part ni volonté de vivre, ni résignation consciente. Rares sont les hommes de cette trempe, et nous n'étions que des spécimens d'humanité bien ordinaire.
Un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi, vous le retrouvez dans le feuilleton de France Culture chaque soir à 20h30 et sur le site. Et puis, il y aura aussi une rencontre au centre Primo Levi et samedi prochain en présence du fils de Primo Levi, Renzo Levi. Votre point de vue, Christian Boltanski, sur ce que l'on vient d'entendre?
Ce texte est admirable pour moi. Et il est presque applicable à chacun de nous. Même si on n'a pas connu l'horrible expérience de Primo Levi. Vous savez, il y a une phrase de Kundera, dans une thèse de Kundera que j'aime beaucoup. Il visite un cimetière et le fossoyeur lui dit « Il faut que les vieux morts laissent la place aux jeunes morts. » Et donc, je pense qu'en une certaine mesure, le drame de la Shoah est sans doute tout à fait à part des autres. Mais malgré tout, nous sommes dans le drame constamment. Nous sommes constamment dans le drame des migrants aujourd'hui, de ce monde en désastre, de tout ce qui arrive. Et donc, je pense que ces mots de Primo Levi, nous pouvons les prendre pour nous aujourd'hui. Nous vivons
même heureux, dans un monde de drame.
À quoi sert l'art, alors, Christian Boltanski?
L'art, comme je l'ai dit, ça sert à poser des questions, et poser des questions qui peuvent amener d'autres questions. Je déteste les gens qui ont des réponses, qui soient aussi bien des religieux que des politiciens. Et je pense que dès qu'on pense avoir une réponse, on essaye d'obliger que les gens partagent notre réponse, et en cela on devient extrêmement dangereux.
Il y a quand même un symbole religieux dans votre exposition, c'est la mort du grand-père, où il y a un grand crucifix
dessus du lit. C'est une œuvre très ancienne, et justement c'est une œuvre qui était en lutte contre le fait que tout le monde disait que j'étais un artiste proustien, un artiste de la mémoire, donc j'ai raconté les mêmes choses à la manière d'un clown, et j'étais très inspiré par un clown allemand qui s'appelait Karl Valentin, qui était un pur génie, qui était un comique qui vivait à Munich avant-guerre. Et donc c'est dans l'esprit de Karl Valentin.
Je voulais vous faire écouter une musique que vous aimez beaucoup, une musique qui est une musique de film. On va l'écouter quelques instants. Vous pouvez continuer, Christian Boltanski.
C'est tellement beau d'injurier le soleil. Voilà.
C'est la double vie de Véronique, plutôt la musique, c'est Zbigniew Pressmer. Pourquoi vous appréciez cette musique?
J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup Kieslowski, je pense que c'est un des plus grands cinéastes qui soit. Et je pleure à chaque fois, voilà pourquoi j'aime ça. Je ne sais pas si c'est de la très grande musique, je ne sais pas ce que vous direz une très grande musique, mais c'est une musique qui me touche.
C'est une musique triste, effectivement.
Je ne sais pas spécialement, je ne dirais pas triste, vraiment, cela. Mais le plus beau, c'est un moment de chant, ce chant justement de ces femmes qui refusent le soleil parce qu'elles veulent aller se coucher et qu'elles sont en train de faire les moissons.
Faire son temps, c'est l'exposition qui vous est consacrée au Centre Pompidou jusqu'au 16 mars. Vous n'avez pas fait votre temps d'ailleurs. Je sais que vous voulez mourir en direct, mais on n'a pas réussi à faire ça. Ça fait un ratage de plus.
On sait jamais, on n'a pas fini.
Non, vous allez continuer à écouter mes camarades que je vais vous présenter. Vous écoutez beaucoup France Culture d'ailleurs.
Ah, moi j'écoute France Culture toute la journée. Comme je n'ai pas d'éducation, je n'ai que France Culture.
Alors, si vous avez de l'éducation.
Non.
Ah, vous êtes éduqué, quoi.
On s'éduque, tout le monde est éduqué. On a toujours son éducation qu'on fabrique. On fait sa vie, on fait son éducation.
Mais en fait, on pourrait faire un Boltanski, on vous mettrait sur une chaise dans le studio, dans un coin, puis vous resteriez à écouter France Culture toute la journée.
C'est à peu près ce que je fais, comme je fais pas grand chose dans ma vie. Je suis assis sur une chaise et j'écoute France Culture. Et tout, ça rentre pas réellement en moi, ça passe comme ça. Mais de temps en temps, j'en prends des bribes. Je dis toujours que j'ai la culture du jeu des 1000 francs. C'est-à-dire que je sais des choses, non, ça c'est sur France Inter, mais je sais des choses absolument invraisemblables et qui ne servent absolument à rien. Qui était le cuisinier de Louis XIV, oui, des choses. Et donc, j'ai acquis comme ça, par l'oreille, plein de choses que je sais.
Je vais vous proposer de continuer à faire ce que vous faites quand vous ne faites rien, c'est-à-dire nous écouter. Vous allez pouvoir entendre successivement Hervé Gardette, Mathilde Serrel et Aurélien Bélanger. Hervé, de quoi allez-vous parler à Christian Boltanski?
Le beau est l'ennemi du bien.
Mathilde Serrel.
Poulidor n'est pas une légende, c'est un concept.
Et enfin Aurélien Bélanger.
C'est le mois de novembre, il pleut et je vais vous parler de la mort.